Bonjour à toutes et à tous. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver grâce à la technologie. Et on en profite tant que c'est encore possible. Et on désire avant toute chose, et je suis sûr que c'est aussi votre désir, qu'on puisse se retrouver très bientôt pour de vrai. Nous entamons à partir de ce dimanche une série de prédications qui entre dans la continuité de ce que nous avons vécu il y a quelques semaines avec le Vendredi Saint et Pâques. Et cette série de prédications que Pasteur Nguyen et moi préparons ensemble va nous accompagner vers un autre temps fort plus tard dans les semaines à venir, la Pentecôte. Nous ne voulons surtout pas donner l'impression qu'après Pâques, il ne se passe plus rien, qu'il n'y a plus rien à dire. Jésus est ressuscité, quelle joie pour nous, mais il y a une suite dans les évangiles et dans le livre des Actes. Et c'est ce parcours de Pâques à la Pentecôte que nous vous proposons de suivre dans les semaines à venir. Il y a quelques mois, je vous ai parlé d'un livre dont je n'ai toujours pas dépassé le premier chapitre et qui s'intitule « À l'école de la grâce » de Jerry Bridges. « À l'école de la grâce ». Dans le premier chapitre, il évoque ce que j'appellerais le syndrome de la bonne ou de la mauvaise journée. La bonne journée, c'est lorsque vous vous levez le matin, motivé pour lire la Bible, vous passez un moment de qualité avec Dieu et tout se passe bien tout au long de la journée. Et vous avez même l'occasion de parler de Dieu à un ancien ami qui n'est pas converti. Ça reprend un peu le sujet de ce matin. La mauvaise journée, c'est lorsque vous vous réveillez en retard, que vous devez déjà vous mettre au travail, que vous n'avez pas eu le temps, un temps personnel avec Dieu. Vous ressentez même de la culpabilité et les choses ne marchent pas très bien durant la journée. Pourtant, vous avez à un moment donné l'occasion de parler de Dieu à un ancien ami qui n'est pas converti. La mauvaise journée, la bonne journée. Et puis la question donc de cet auteur est la suivante. Est-ce difficile pour vous de croire que Dieu va vous bénir et vous utiliser au beau milieu d'une journée plutôt mauvaise spirituellement? Est-ce que c'est difficile pour vous de croire que Dieu puisse vous utiliser, vous bénir durant une journée où vous n'avez pas été au top sur le plan spirituel? Si vous répondez oui, c'est sans doute que vous pensez que la bénédiction de Dieu dépend de vos performances spirituelles. Vous avez donc le syndrome de la bonne ou de la mauvaise journée. Et en somme, vous avez oublié ce qu'est l'Évangile. Et certains Corinthiens, à l'époque de Paul, avaient aussi oublié une partie de l'Évangile. En effet, ces derniers qui ne pouvaient tout simplement pas imaginer une résurrection physique des morts. C'est le sujet du chapitre 15 dont nous avons lu un extrait. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait une résurrection des corps. Et dans la culture grecque de l'époque, influencée par la philosophie, le corps était souvent méprisé. Une prison pour l'âme, disait-on. Une prison pour l'âme qui, elle, est éternelle et immortelle. Et ces Corinthiens, ce groupe de Corinthiens peut-être, pourtant convertis, ne croyaient pas en la résurrection des corps. Mais ils ont interprété la résurrection dans un sens plutôt spirituel, en l'associant à l'expérience de la conversion. Voilà la résurrection. Le problème avec cette conception, c'est que s'il n'y a pas de résurrection des corps, le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Et l'apôtre Paul aborde donc ce sujet pour rectifier leur compréhension. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de la résurrection des morts, l'apôtre Paul renvoie ses destinataires au contexte plus large du message de l'Évangile, qui comprend un élément clé, la résurrection corporelle de Christ. C'est cette partie de l'argumentation de Paul que nous allons étudier cet après-midi. Paul introduit donc son propos en revenant à ses fondamentaux de la foi qui sont aussi les nôtres, presque 2000 ans plus tard. L'évangile n'a pas changé et ne doit pas changer d'un iota, quelle que soit l'époque à laquelle il est annoncé. Mais au fait, est-ce que nous avons une idée exacte de ce qu'est l'évangile ? Comme certains Corinthiens, il nous est possible de mal comprendre l'évangile et de vivre notre vie chrétienne sur des bases erronées. Comme les Corinthiens, nous avons cru, mais en même temps, dans la vie de tous les jours, nous ne vivons plus selon l'évangile. Peut-être avons-nous besoin cet après-midi d'un bon rappel comme les Corinthiens. Et effectivement, Dieu nous rappelle à travers ce que Paul écrit que l'évangile tout entier concerne notre vie tout entière. Dieu nous rappelle à travers ce que Paul écrit que l'évangile tout entier concerne notre vie tout entière. Et pour le dire autrement, l'évangile n'est pas juste une partie de ma vie. J'ai cru et maintenant je me débrouille. Mais l'évangile continue d'influencer ma vie de tous les jours. Et voyons justement ce que nous entendons par l'évangile tout entier. Et je vous propose de passer en revue trois enseignements qui sont tirés ici du texte de Paul. Premièrement, que l'évangile sans la résurrection n'est pas un évangile complet. L'évangile sans la résurrection n'est pas complet. Deuxièmement, que l'évangile avec la résurrection est quelque chose qui est attesté. Et puis enfin, l'évangile de la grâce peut tout changer. Voyons d'abord, l'évangile sans la résurrection est un évangile qui n'est pas complet. Et force est de constater qu'il y a des mots dans le vocabulaire chrétien qui sont difficiles à définir, ou bien qu'il existe trop de définitions pour un seul mot. C'est le cas du mot évangile. Plusieurs ont tenté une définition à partir des données de la Bible. Il existe tellement de définitions différentes concernant ce qu'on entend par évangile. Et pourtant, les chrétiens devraient s'entendre sur ce que signifie ce mot si important. Parce que c'est le mot spécifique pour parler de la bonne nouvelle. Parce que oui, le christianisme est la religion de la bonne nouvelle. Les chrétiens forment le peuple qui a cru à la bonne nouvelle et qui a reçu la mission de l'annoncer au monde. Alors regardons maintenant ce que l'apôtre Paul écrit à propos de cette bonne nouvelle. À partir du verset 1, nous apprenons d'abord que l'évangile est ce message que Paul a annoncé aux Corinthiens et que ces derniers ont bien reçu. Il est même dit qu'ils y sont attachés. Ils tiennent ferme dans ce message qu'ils ont reçu. Nous apprenons aussi au verset 2 que l'évangile est le message qui permet d'accéder au salut. Pour le dire autrement, par l'évangile, nous découvrons comment être sauvés, c'est-à-dire comment trouver le pardon auprès de Dieu pour nos péchés, pour nos égarements, pour notre révolte contre lui, et tout cela qui nous sépare du Dieu saint, du Dieu qui ne tolère pas le mal. Comment être pardonné ? L'évangile nous explique comment nous pouvons de nouveau être acceptés par Dieu dès aujourd'hui et pour être un jour dans son royaume. Oui, l'évangile nous explique concrètement par qui et comment nous pouvons être sauvés. Notez cependant ce que Paul précise ici, au verset 2. C'est aussi par lui, c'est-à-dire l'évangile, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement dit, changer les termes ou enlever des éléments dénature nécessairement l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui a pour conséquence que la foi qu'on y place devient inutile. Elle ne peut pas nous mener au salut. En l'occurrence ici, si on enlève l'élément de la résurrection de Jésus, eh bien notre foi est inutile. Sans la résurrection, l'évangile est incomplet. Sans la résurrection, la foi est vaine. Et ce sera dit plus tard aussi au verset 13 et au verset 17. Sans la résurrection de Christ, la foi est vaine. Il n'y a plus de raison de croire ni d'espérer, d'ailleurs. Pour prendre une image, peut-être que j'ai déjà entendue, Jésus, en fait, ce n'est pas ce pompier qui nous sauve d'un incendie en mourant dans les flammes à notre place. Jésus n'est pas ce pompier qui nous vient en aide, qui nous sauve et qui meurt dans les flammes à notre place. Ça, c'est une image incomplète de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, je vous propose de voir ce qu'est ce message de l'Évangile à partir de ce que l'apôtre Paul nous dit, versets 3 et 4. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Nous retrouvons comme élément constituant de la bonne nouvelle la mort de Christ pour nos péchés, sa mise au tombeau et sa résurrection le troisième jour. Ce sont ces événements historiques dans lesquels beaucoup d'entre nous ont placé leur foi. Oui, nous croyons que Christ a porté sur lui nos fautes pour mourir à notre place de la mort que nous méritions. Et ce qui prouve qu'il est mort, c'est qu'on l'a mis au tombeau. Nous croyons aussi que Jésus est ressuscité le troisième jour, ce qui nous montre bien que Dieu a accepté, a validé ce sacrifice comme étant efficace pour nous ôter nos péchés. Dieu a accepté ce sacrifice. Et donc, il le montre, il montre cette approbation en ressuscitant Jésus. C'est une des raisons pour lesquelles la résurrection est une si bonne nouvelle. Et à partir de maintenant, si nous croyons que Jésus est le Christ mort pour nos péchés et ressuscité, nous avons l'assurance que l'œuvre de Christ est vraiment efficace pour nous. C'est donc dans ces termes que l'Évangile a été transmis aux Corinthiens. Et c'est dans ces termes que nous devons continuer à croire en l'Évangile, sans enlever un seul de ces éléments. Peut-être que parfois nous avons tendance à nous arrêter seulement à la croix. Jésus est mort pour nos péchés et donc nous sommes pardonnés. Point final. Et nous oublions la partie où Jésus est revenu à la vie. Et cette partie est quand même importante. D'ailleurs, à son fils spirituel Timothée, l'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. » Souviens-toi de Jésus-Christ, qui est ressuscité. Pourquoi c'est si important de préciser cela? Est-ce que ça veut dire qu'il nous arrive d'oublier que Jésus est ressuscité? Dans notre quotidien, quand nous sommes trop affairés, non seulement nous avons tendance à oublier Jésus, mais nous avons aussi tendance à oublier une partie de son œuvre. C'est vrai, la joie du dimanche de Pâques semble passer. Mais pourtant, la réalité, c'est que Jésus est ressuscité pour toujours. Et c'est un souvenir que nous devons activer, réactiver jour après jour. Après tout, c'est une partie fondamentale de ce que nous croyons. Et Paul veut rappeler l'Évangile tout entier aux Corinthiens. Il est donc tout aussi important pour nous de nous souvenir de notre Seigneur crucifié et ressuscité le troisième jour. Et j'ai juste une question pour toi. As-tu oublié l'Évangile ces derniers temps? Sans la résurrection de Christ, l'Évangile demeure incomplet. Il n'y a plus dans ce cas de bonnes nouvelles. Mais fort heureusement, l'Évangile avec la résurrection est quelque chose de bien attesté. Et donc, c'est le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce texte. L'Évangile avec la résurrection est attesté. Je reprends à mon compte des idées que Michael Razzano, l'un de mes professeurs à Nogent, avait développé à propos de ce texte. L'apôtre Paul ne mentionne pas moins de 3 témoins pour attester que la résurrection de Jésus a vraiment eu lieu. 3 témoins. L'évangile, tel que nous l'avons vu et qui est formulé au verset 3 et 4, d'ailleurs on peut ajouter le verset 5, d'ailleurs certains spécialistes ont identifié dans ces lignes probablement une ancienne confession de foi de l'Église primitive que Paul transmet comme il l'a reçue. Donc ces quelques versets constituent sans doute une ancienne confession de foi que l'Église primitive récitait et mémorisait. Deuxièmement, deuxième témoin, les Écritures, c'est-à-dire, pour l'époque en tout cas, l'Ancien Testament. Et puis le troisième témoin, les témoins oculaires, dont Paul fait partie lui-même. L'argumentation de Paul, ici, dans ce chapitre 15, tourne autour du thème de la résurrection. Et il s'agit donc pour lui d'appuyer sur ce fait que la résurrection de Jésus est un fait réel, historique. Et c'est pour ça que dès le début de notre passage, il insiste tant et tant sur cet événement fondamental pour notre foi et pour notre salut. Mais j'aimerais juste parler sur les 3 témoins, des 2 autres témoins, les Écritures d'abord. Est-ce que vous avez remarqué la répétition au verset 3 et 4 « conformément aux Écritures » Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi dire que Christ est mort et ressuscité conformément aux Écritures? Là aussi, c'est un rappel pour nous. Lors du culte de Pâques cette année, lorsque j'ai parlé de l'apparition de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, j'ai mentionné un certain nombre de textes de l'Ancien Testament qui annonçaient la passion et la résurrection de Christ. Des textes donc de l'Ancien Testament qui annonçaient des faits qui allaient se produire des siècles plus tard. Et cet après-midi, je voudrais seulement insister sur le fait que la résurrection de Jésus avait été annoncée d'avance par les prophètes, notamment le prophète Ésaïe, mais aussi dans les psaumes. Et j'aimerais juste lire avec vous le psaume 16 au verset 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Je crois que ce verset est assez clair. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre l'utilise le jour de la Pentecôte dans sa prédication pour montrer que ce verset parle bien de Jésus et de sa résurrection. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Donc, dès l'Ancien Testament, il est question de la résurrection de Christ. Dieu l'avait annoncé à Israël à travers ses porte-paroles. Et cela veut dire au moins 2 choses pour nous. D'abord, que la parole de Dieu est fiable, puisqu'elle s'est réalisée. Dieu a annoncé dans le passé et ça s'est réalisé. Ce qui signifie aussi que nous pouvons lire en toute confiance l'Ancien Testament. Et puis la deuxième implication, c'est que l'œuvre de Christ a été annoncée des siècles avant. Et cela nous montre donc que Dieu avait prévu depuis longtemps son plan de salut. Si ça a été annoncé des siècles avant, c'est que Dieu avait déjà cette idée en tête. Que ton salut, mon salut, ont été prévus longtemps à l'avance. Et face à ce constat, nous pouvons juste dire « Waouh !» Concernant les témoins oculaires, des versets 5 à 8, nous avons une foule de témoins qui pouvaient, à l'époque en tout cas, attester qu'ils avaient bien vu Jésus. Ou plus précisément que c'est Jésus qui a pris l'initiative d'apparaître ici ou là, à différents moments, à différentes personnes. Cette semaine, je vous ai posé la question, combien d'apparitions de Jésus sont mentionnées dans le Nouveau Testament? Et pourquoi est-il apparu autant de fois? Eh bien, d'après ce tableau qui s'affiche, donc c'est juste après dans les slides, nous avons la mention de 11 apparitions de Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus apparaît autant de fois pour que plusieurs puissent témoigner, attester qu'il est bien vivant. Et Paul mentionne dans notre texte les témoins principaux. Il mentionne Céphas, qui est le mot grec pour parler de Pierre. Il mentionne les apôtres. Ensuite, plus de 500 personnes en même temps. Il mentionne également Jacques, le frère du Seigneur, le frère de Jésus, qui deviendra après coup l'un des piliers de l'Église de Jérusalem. Et puis en dernier lieu, c'est Paul lui-même qui est aussi un des témoins oculaires du Christ ressuscité. Alors la question c'est, est-ce qu'ils ont tous halluciné en même temps à propos de Jésus? Est-ce que plus de 500 personnes qui ont vu Jésus et qui peuvent l'attester ont tous eu une hallucination à ce moment-là? C'est peu probable. Cette foule de témoins doit finir de convaincre les Corinthiens qui vont lire cette lettre et doit finir de vous convaincre aussi, si vous n'avez peut-être jamais considéré jusque-là que Jésus était vraiment ressuscité. Comment expliquer alors ces témoignages? Pour les Corinthiens, Paul évoque même la possibilité de vérifier tout ça auprès des témoins qui sont encore vivants, verset 6. Et bien sûr, aujourd'hui, tous ces témoins, y compris Paul, ne sont plus. Mais ils ont transmis la même information. Le Christ est ressuscité. Beaucoup l'ont vu. Et nous entendons encore de nos jours des témoignages d'anciens musulmans qui ont vu en songe Jésus ressuscité et qui se sont tournés vers lui. Et dans le magazine de Portes Ouvertes de ce mois-ci, nous lisons ce témoignage. Un ancien djihadiste raconte avoir vu ce qu'ils appellent l'homme en blanc se présenter à lui une première fois. Donc il l'a vu en vision, en songe, c'est pas précisé. Lors de la deuxième apparition, Jésus lui a dit de se rendre à un certain endroit où un pasteur lui donnerait une Bible. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le pasteur ne l'avait jamais vu, mais il l'attendait. Et il l'a même appelé par son nom. Des miracles de ce genre, c'est la conclusion dans le magazine, des miracles de ce genre sont très nombreux. Et effectivement, nous avons de nombreux témoignages que Dieu, plus précisément Jésus, se révèle encore aux hommes d'aujourd'hui et plus particulièrement au peuple musulman. Si Jésus est vraiment ressuscité, c'est une bonne nouvelle pour toi. Cela signifie que tout est vrai et que le seul moyen pour toi d'être sauvé, c'est de croire en l'Évangile, que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité pour qu'effectivement tu sois pardonné, pour qu'effectivement tu reçoives la vie éternelle. Et cela n'est pas sans rapport avec la résurrection des morts qui est abordée dans la suite du chapitre 15 et que je t'invite à lire dans la semaine. Sans la résurrection, l'évangile n'est plus une bonne nouvelle. Mais avec la résurrection de Jésus, l'évangile est une bonne nouvelle attestée par plusieurs témoins. Et maintenant que nous avons vu le message de l'évangile en entier, voyons en quoi cet évangile peut tout changer dans notre vie. L'évangile de la grâce peut tout changer. Paul est le dernier à avoir vu le Christ ressuscité, après tous les autres apôtres. Et cette expérience incroyable sur le chemin de Damas nous est racontée plusieurs fois dans le livre des Actes, notamment au chapitre 9, au chapitre 22, au chapitre 26. Au verset 8, Paul se compare à un enfant né hors terme. D'autres traductions proposent le mot avorton, ce qui n'est pas très valorisant. Paul se compare à un avorton. En fait, il souligne le fait que il est un apôtre particulier qui n'aurait peut-être pas dû rencontrer le Seigneur. En tout cas, il ne le méritait pas. Il accepte son statut d'apôtre qui est appelé après tous les autres. Il est celui qui ne fait même pas partie des douze qui ont suivi Jésus durant son ministère terrestre. C'est dire combien son appel est tout particulier. Paul reconnaît au verset 9 qu'il est le plus petit des apôtres et qu'il n'est même pas digne d'être appelé ainsi parce qu'il le rappelle, il a autrefois persécuté l'Église. Et effectivement, Paul, avant de devenir l'apôtre qu'il est, faisait partie de la branche la plus stricte du judaïsme. C'était un pharisien plein de zèle et qui voulait vraiment obéir à Dieu et à sa parole et à sa loi. Et comme certains d'entre vous l'ont vu cette semaine dans l'Épître aux Philippiens, il était plutôt fier de ce statut. Mais malheureusement, il n'avait pas encore compris qui était Jésus de Nazareth. Et c'est donc sur le chemin de Damas, alors qu'il était sur le point d'aller persécuter d'autres chrétiens, c'est sur ce chemin-là qui fait la plus belle et la plus bouleversante des rencontres. Paul voit Jésus, celui qu'il croyait mort, celui qu'il prenait pour un imposteur. Il le voit en tant que ressuscité. Et c'est cette vision qui est à l'origine de sa conversion. C'est cette vision aussi qui est à l'origine de son appel en tant qu'apôtre. Mais j'aimerais simplement lire dans l'un de ses témoignages ce que Jésus lui a dit sur ce chemin, dans Actes 26, des versets 15 à 18. C'est Jésus qui parle et qui lui dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Voilà la mission, l'appel que Jésus a adressé précisément à Paul. Incroyable, n'est-ce pas ? Incroyable est la grâce de Dieu. Paul est l'exemple type de l'être humain qui ne mérite rien de la part de Dieu. Lui qui a cherché à détruire l'Église est finalement appelé à agrandir cette Église. Paul est l'exemple qui nous dévoile ce qu'est la grâce de Dieu dans toute sa beauté. Et dans la dernière partie de notre texte, Paul ne cesse d'insister sur la grâce et encore la grâce, au verset 10. Paul reconnaît qu'il est devenu ce qu'il est parce que Dieu l'a bien voulu. Parce que Dieu lui a fait grâce et cela a eu pour effet le ministère fructueux que nous lui connaissons. Et il continue d'ailleurs dans ce registre quand il parle de ce ministère, il dit « Non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. » Une grâce qui l'a complètement transformé. Et Paul, juste avec ces quelques versets, évoque courtement ce que l'évangile de la grâce a produit comme effet sur lui. Mes amis, je voudrais juste vous poser une question. Avez-vous bénéficié de la même grâce que Paul ? Je ne parle pas de son ministère et de tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Je parle de cette grâce qui l'a marqué à vie parce que Jésus, celui qu'il persécutait, l'a choisi pour être son disciple. Est-ce que nous bénéficions de cette même grâce que l'apôtre Paul ? À nous qui, autrefois, avions ignoré Jésus, à nous qui préférions vivre avec nos propres règles et sans lui, Jésus nous a fait grâce, comme il a fait grâce à Paul. Il s'agit de la même grâce. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous avez compris cela ? C'est par grâce qu'il vous a permis de comprendre l'Évangile. Comparez qui vous étiez avant de le connaître, et qui vous êtes aujourd'hui. Et dites avec Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est-à-dire une nouvelle créature, renouvelée par Dieu. Parce qu'effectivement, nous avons commencé une vie nouvelle avec le Seigneur. Parce que nous avons accepté que Christ ait pris sur lui tous nos péchés et qu'il les fait par amour et par grâce envers nous. Voyez encore la vie de Paul. Il a été bouleversé par un tel sauveur qui s'est révélé à lui. Et cela a transformé toute sa vie. Je préciserai même, cela a transformé toute l'orientation de sa vie. Lui qui était le pharisien par excellence, il devient l'apôtre des païens. Cela a changé l'orientation complète de sa vie. Et toi qui connais l'évangile depuis un certain temps, est-ce que tu crois que ce même évangile de la grâce peut encore provoquer des changements dans ta vie? As-tu à un moment donné laissé l'évangile de côté dans ta vie? Et comme nous l'avons vu au début, as-tu oublié que ta vie a pour socle l'évangile qui te rappelle ce que Jésus a fait pour toi? As-tu oublié que tout cela était par grâce, que Jésus n'avait pas à te sauver? Que ni toi, ni moi n'étions méritants de quoi que ce soit. Nous sommes pécheurs. As-tu l'impression de stagner dans ta vie? As-tu l'impression d'avoir fait le tour de la vie chrétienne, de ne plus avoir besoin de progresser? Ou au contraire, te sens-tu découragé en ce moment parce que tu n'arrives pas à avoir une bonne relation avec Dieu? Tu as du mal à lire la Bible, à prier, à avoir du temps pour Dieu, du temps avec Dieu, comme tu le souhaites. Eh bien, j'aimerais dire que peu importe où tu en es, c'est précisément là que tu as besoin de l'évangile complet, avec la mort et la résurrection de Christ pour ton salut. Tu as besoin de l'évangile, encore aujourd'hui. C'est précisément là que nous avons besoin de saisir ce qu'est la grâce de Dieu envers nous pour pouvoir changer. C'est la grâce qui doit nous motiver à changer. Et en fait, ce changement a déjà commencé dans notre vie, pour celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Ce changement a déjà commencé dans notre vie, puisqu'avant nous ne croyions pas, et maintenant nous croyons. Ce changement a déjà commencé, puisque nous avons un nouveau cœur. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous donner un nouveau cœur, nous l'avons déjà. Puisque nous avons déjà commencé une nouvelle vie. Puisque l'Esprit de Dieu nous accompagne déjà. Et si tu te rends compte que tu n'avances plus, c'est peut-être parce que tu as oublié en cours de route ce qu'est l'évangile de la grâce. Mais cet après-midi, dans sa grâce, Dieu te le rappelle. Et j'aimerais terminer par cette citation de l'auteur que je citais au début, Jerry Bridges, qui nous dit ceci concernant le syndrome de la mauvaise et de la bonne journée. « Vos pires journées ne seront jamais suffisamment mauvaises pour que la grâce de Dieu ne puisse vous atteindre. Et vos meilleures journées ne seront jamais suffisamment bonnes pour que vous n'ayez plus besoin de la grâce de Dieu. Chaque jour de notre expérience chrétienne devrait être une journée passée en relation avec Dieu sur la seule base de sa grâce. Nous sommes non seulement sauvés par grâce, mais nous vivons aussi tous les jours par grâce. » Paul conclut cette première partie de son argumentation en affirmant qu'il prêche le même message de grâce que les autres apôtres, témoins comme lui de Christ ressuscité. Dieu nous rappelle cet après-midi que ce message qu'est l'évangile de la grâce doit rester intact, entier, pour impacter notre vie entière. Un évangile entier pour impacter notre vie entière. Et si je résume les trois enseignements que nous avons vus dans ce chapitre, dans ce passage, d'abord que l'évangile sans la résurrection n'est pas complet. Ce serait même une mauvaise nouvelle pour nous, si c'était le cas. Mais heureusement, Christ est ressuscité. Deuxièmement, que l'évangile avec la résurrection est attesté. Tant de témoins ont vu que Christ est ressuscité et nous ont transmis cette bonne nouvelle. Et enfin, que l'évangile de la grâce peut tout changer si nous avons compris qu'il est le message encore valable pour celles et ceux qui croient. Pas seulement au début de notre vie chrétienne, mais tout au long de notre vie. Et si aujourd'hui, tu t'es rendu compte que tu avais mené une vie alternative qui ne tient plus vraiment compte de l'évangile, reviens vers Dieu et reviens vers son évangile. Renonce à cette vie que tu t'es fabriquée et reviens au cœur de la foi chrétienne. Reviens au message de la grâce que tu as encore entendu cet après-midi. Si en ce moment tu te sens proche de Dieu, que tout se passe plutôt bien dans ta vie spirituelle, veille à ne pas oublier que tu as aussi besoin de l'Évangile, que tu as aussi besoin de te souvenir que Christ a été parfait et non pas toi, qu'il est mort à ta place et qu'il est ressuscité pour que tu sois déclaré juste. Rappelle-toi que tu n'as aucun mérite. Et si tu reconnais t'être égaré sur le mauvais chemin, je t'invite à considérer la grâce de Dieu à ton égard et décide avec son aide de vivre chaque jour avec en tête l'Évangile. Christ est mort pour tes péchés, tu n'as plus rien à payer pour ça. Christ est ressuscité et t'appelle à renoncer à ton péché et à vivre pour lui, maintenant et durant toute ta vie. Amen. J'aimerais simplement laisser un temps aux uns et aux autres pour s'examiner par rapport à la parole entendue, pour éventuellement se repentir, demander pardon à Dieu pour peut-être la mauvaise direction qu'on a pu prendre jusque-là, et laisser l'évangile de grâce agir encore en nous. Laisser Dieu agir en nous par son esprit. Voilà, je vous laisse juste un temps où nous pouvons simplement être devant Dieu et je terminerai par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole et combien tu es capable de temps à autre de nous secouer. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous les mauvaises directions que nous avons pu prendre dans notre vie. Et peut-être même en ce moment, Seigneur, tu connais la vie des uns et des autres et tu sais peut-être que certains se sont peut-être égarés. Je te prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu les ramènes vers toi, vers ton évangile, vers la bonne nouvelle que tu as voulu communiquer aux hommes pour que nous puissions découvrir quel est le moyen de pouvoir être sauvés. Comment finalement nous attacher à une seule personne, un seul sauveur, Jésus-Christ. Et merci parce que oui, nous voulons nous souvenir encore une fois de ce message de l'Évangile, qu'il est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité afin que nous soyons déclarés justes devant toi, afin que désormais son œuvre achevée soit complètement validée pour toujours, pour l'éternité, pour tous ceux qui placent leur confiance en toi. Et donne-nous, Seigneur, de tenir dans la durée. Aujourd'hui, demain, après-demain et les jours suivants, accorde-nous la grâce de nous appuyer sur ta grâce, encore et encore. De ne jamais oublier que nous ne sommes pas méritants. Que tout ce que nous pouvons produire de bien, eh bien, c'est l'objet de ton action dans notre vie. Accorde-nous, Seigneur, d'être lucides sur nous-mêmes et encourage-nous jour après jour à rester au plus près de toi et à te laisser nous transformer. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est vraiment en comptant uniquement sur ta grâce, comme l'a fait l'apôtre Paul, comme l'ont fait bien d'autres avant nous. Accorde-nous encore cet après-midi de vivre selon l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen.